Abyss et Julien Thomas. Très belle soirée à tous.
Il est 23h.
Parlons vrai.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Si je vous dis Yves Pslati, je suis sûre que vous savez de quoi il s'agit quand je parle de sécurité, de sexualité positive. Et c'est vrai que les études ont montré que beaucoup d'hommes sont dans cette sexualité positive, en tout cas beaucoup plus que les femmes. Alors c'est peut-être pas le cas sur Sud Radio parce que j'entends de nombreuses femmes témoigner et raconter avoir une bonne sexualité, mais je suis quand même consciente que Sud Radio n'est pas forcément représentatif de la France, en tout cas certainement pas cette émission. Bref, j'entends aussi beaucoup de femmes qui ont des difficultés avec la sexualité et tout particulièrement avec leur désir. Alors est-ce que désir et sexualité positive, il y a un lien? C'est déjà une chose à laquelle Yves Pslati va pouvoir répondre dans un instant. Et en tout cas, on va essayer de comprendre pourquoi les femmes seraient moins dans la sexualité positive que les hommes. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est qui, hein, toujours la grande question. Et puis peut-être qu'on pourra donner des conseils aux hommes pour aider leurs partenaires à aimer un peu plus la sexualité, ou même des conseils aux femmes qui ont envie d'être un petit peu plus dans l'amour de la sexualité. En tout cas, Yves Pslati va répondre dans un instant à toutes vos questions. Et puis vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Yves Pslati, bonjour.
Bonjour Brigitte.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le créateur de ce concept sexualité positive, avec aussi la notion de première, deuxième, troisième, quatrième division, pour faire un petit parallèle avec le foot. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par sexualité positive? Est-ce que vous pourriez peut-être déjà nous redéfinir ce terme?
Le problème, c'est au jour d'aujourd'hui, quand on parle sexualité, quand on parle santé sexuelle, justement, on parle des choses négative. Donc, on va parler de la violence sexuelle, on va parler, le paradigme au jour d'aujourd'hui, c'est le consentement, on va parler de la pornographie, on va parler de tout ce qui est viol, inceste. Ça. Donc, rien de positif là-dedans. Donc, c'est à un moment donné de se dire aussi, bon, c'est bien, il faut en parler des trucs négatifs. Mais la sexualité n'est pas que des trucs négatifs. En parlant que des trucs négatifs, comment on va faire aimer la sexualité aux gens? Ce n'est pas possible. Donc, positivons les choses. C'est-à-dire que le sexe, c'est bon. C'est bon pour la santé. Allez-y, fonçons là-dedans. Donc, c'est dans cette optique-là.
D'ailleurs, enfin, c'est prouvé sur le plan scientifique, médical, que la sexualité, c'est bon pour la santé. C'est prouvé aussi que la sexualité renforce la relation dans le couple, et que même sans sexualité, le couple est souvent en danger. Bon, donc, on sait à quel point c'est quelque chose de positif. Maintenant, on est dans un principe de précaution, vous le savez bien, donc on a tendance toujours à voir les dangers de quelque chose plutôt que les avantages.
Oui, c'est pour ça en fait que les gens en parlent, mais qui est-ce qui parle de ça? Qui est-ce qui parle des trucs négatifs de la sexualité? Est-ce que les grands sexophiles vont baser tout leur discours sur la sexualité? Les sexophiles, ceux qui aiment le sexe, vont baser tout leur discours sur la sexualité que sur des trucs négatifs? Sûrement pas. Donc, je pense que dans les gens, parmi les gens qui parlent du côté négatif de la sexualité, à mon avis, ils ne sont pas tous des grands sexophiles. Donc, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de dire certaines choses, bien évidemment, d'alerter les gens, mais laissons aussi la parole à la positivité de la sexualité, au bon côté de la sexualité, et c'est ça qu'il faut enseigner. Quand j'entends des enseignants qui vont dans les écoles pour des adolescents, et de quoi vous avez parlé? Quand je leur demande de quoi vous avez parlé, ils ont parlé de l'anatomie. Bon, c'est pas un cours d'anatomie. Ils ont parlé de la physiologie. C'est pas un cours de biologie ni de physiologie. Mais en plus, ils ont parlé de l'inceste, des viols, et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez expliqué à vos élèves pour qu'ils aiment la sexualité? Rien. Tout. Les côtés négatifs. Vous n'avez expliqué que des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi vous n'expliquez pas les choses qu'il faut faire pour qu'ils aiment la sexualité, pour qu'ils s'investissent dans la sexualité? Donc, dans l'éducation à la sexualité, c'est ça le grand problème. Oh, il y a des cours d'éducation à la sexualité. Mais qu'est-ce que vous expliquez dans le cours à l'éducation? C'est ça qui est important pour moi. Quel est le contenu de votre cours? Et si le contenu de votre cours est des choses qu'il ne faut pas faire et des choses négatives, ben vous passez à côté de quelque chose. En tant que sexologue, notre but, quand on enseigne quelque chose, pas seulement dans la sexologie, comme quand on enseigne du sport, quand on enseigne le cinéma, quand on enseigne la musique, c'est de faire aimer le sujet sur lequel on enseigne aux autres, à celui qui est en face de nous. Et souvent, je vais dire à ces gens-là, mais qu'est-ce que vous avez expliqué pour faire aimer le sexe aux gens? Rien.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, on voit bien que lorsqu'on a la chance d'avoir grandi dans un foyer où les parents aimaient la sexualité, ça va toujours mieux que lorsqu'on est dans on a été élevé avec des parents qui étaient pas très sexuels et qui nous ont déjà un petit peu bridés, si je puis dire. On va parler particulièrement des femmes. On sait que beaucoup de femmes ont du mal avec la sexualité. En tout cas, elles sont moins souvent que les hommes dans une sexualité positive. C'est quoi? C'est inné? C'est acquis? Qu'est-ce que vous diriez?
Rien n'est inné dans la sexualité. Donc, les gens pensent que tout est inné, que ça tombe du ciel. Non, absolument pas. Tout est un apprentissage. Il faut apprendre la sexualité. Pour pouvoir apprendre la sexualité, il faut s'investir. C'est comme dans les autres plaisir qu'on peut prendre, hédonique qu'on peut prendre dans la vie. Quand on veut s'intéresser à un sujet pour pouvoir aimer ce sujet-là, donc ici on parle de la sexualité, mais pour pouvoir aimer par exemple le vin, faut suivre des cours d'œnologie, la gastronomie, des gastronomies, le cinéma, la musique, le sport, il faut s'entraîner. Et la sexualité est exactement comme les autres domaines. Il faut s'investir et il faut s'entraîner. Alors, les gens qui n'aiment pas le sexe, les grands sexophobes, on va trouver mille et une raisons pourquoi ils n'aiment pas le sexe. Mais en fait, quand on creuse un peu leur histoire, la première chose qui leur sort, et de loin, c'est pas qu'ils ont été violentés, qu'ils ont reçu, qu'ils ont eu des viols, des incestes pendant leur jeunesse, et qui expliquerait qu'ils n'aiment pas la sexualité. La grande majorité, c'est sûrement pas ça. C'est le non-investissement à la sexualité. Un sportif, vous avez dit au début, c'est bon pour la santé. Le sport aussi, c'est bon pour la santé. OK? Mais il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Eh bien, c'est leur droit, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'aiment pas, ils n'arrivent pas à accrocher au sport. Ils n'arrivent pas à avoir. Vous savez, quand on fait du sport, bon, vous aimez bien l'équitation, vous avez beaucoup fait de sport. Il y a, à un moment donné, on est bombardé d'hormones. On est bombardé surtout de bêta-endorphine qui est là. À partir d'un certain seuil, on est bombardé de ces hormones de la bêta-endorphine qui est de la morphine naturelle. Quand on fait une course à pied, par exemple, à partir d'un certain kilomètre, probablement vers le sixième, septième ou huitième kilomètre, on est bombardé d'hormones, on ne sent plus et on prend beaucoup plus de plaisir. La sexualité, c'est la même chose. Ce sont des gens qui ne se sont pas investis, qui n'ont pas fait leurs 6-7 km, si vous voulez,
Oui.
et qui n'ont pas ressenti ce plaisir-là, donc ils ne s'investissent pas. Donc la première raison, c'est le non-investissement à la sexualité.
D'accord. Et alors, dernière question, puis après, évidemment, on va donner la parole aux auditeurs et nous avons Frédéric déjà qui est en attente. J'entends beaucoup les femmes avec la difficulté avec le désir. Qu'est-ce que vous avez à en dire là déjà? Puis je suppose qu'on aura certainement des appels sur ce sens. Comment on fait pour retrouver son désir?
Mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles vont mettre en place pour obtenir le désir? Donc, le désir, il ne tombe pas du ciel, hein. Le désir, par exemple, dans la sexualité, il y a trois activités sexuelles, le fantasme, la masturbation et le rapport sexuel. Alors, les gens, ils basent toute leur sexualité sur le rapport sexuel. Eh bien, c'est une erreur. Donc, pour pouvoir titiller le désir sexuel, je parle, hein, c'est le vrai désir. Peut-être qu'il faut. Je vais définir ce que c'est le désir sexuel, hein. Le désir sexuel, c'est pour obtenir du plaisir sexuel et des orgasmes. Point. Il n'y a pas d'autre définition du désir sexuel. toutes les autres formes de désir sexuel, c'est un désir de rapprochement, un désir de passer du temps ensemble, un désir ne regarde pas ailleurs, regarde moi-même, moi-même, un désir de tu dois m'aimer parce que si je te donne du sexe, donc c'est pas de la sexualité. C'est vraiment pour d'autres raisons. Ils parlent de la sexualité, ils pensent qu'ils ont du désir sexuel. Désir sexuel, c'est pour obtenir du plaisir et c'est pour obtenir du fantasme. 1.7. Ce que vous êtes là-dedans, vous êtes là-dedans. Vous n'êtes pas là-dedans, eh bien, provoquez. Comment est-ce que vous allez provoquer? Par les fantasmes. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens? Ben, vous avez un partenaire ou vous n'avez pas un partenaire, ben, essayez de vivre dans une vie fantasmatique, essayez de fantasmer ou bien de créer le fantasme, c'est-à-dire des lectures des films. Passez du temps avec ça, masturbez-vous. Et c'est comme ça que le désir intrinsèque, oui, mon désir personnel qui va augmenter.
Donc, ce que vous dites est important parce que on sait que beaucoup de femmes sont plutôt dans le désir de faire plaisir à leur homme et donc elles ont beaucoup de désir au début et puis ensuite, bah, comme elles sont pas dans ce désir sexuel dont vous venez de parler, évidemment tout s'éteint, si je puis dire. Hein. C'est un petit peu ce que vous venez d'expliquer qui me paraît en effet très clair. Je vous propose qu'on fasse une petite pause sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous avez envie de rejoindre Yves Slaty, n'hésitez pas à nous rejoindre et Frédéric est avec nous dans un instant.
Sud Radio Agen
102.3
Sud Radio. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Yves Slaty est avec nous, sexothérapeute, thérapeute de couple également et auteur de La sexualité positive aux éditions de La Musardine. Frédéric, bonjour.
Bonjour Brigitte. Vous m'entendez?
Bonjour, Bonjour Yves, il est là avec nous, Frédéric.
Bonjour Yves.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes en couple depuis une vingtaine d'années.
Oui, c'est ça.
Et vous avez donc votre femme qui est peut-être un peu moins dans la sexualité positive. Vous étiez tous les deux dans une sexualité positive au début ?
Eh bien, je le pensais, oui, au début, que ça se passait bien, ça se passait à peu près bien, c'était convenable. Et en fait, on a eu les enfants et ça s'est compliqué après. Moi, j'ai eu une maladie un peu compliquée aussi. Et du coup, maintenant, ça s'est amenuisé d'année en année. Et puis là, on en est arrivé au point zéro. Et moi, j'en peux plus. Donc, je suis un peu embêté. C'est pour ça aussi que je vous appelle. Je sais plus comment faire, en fait. Je suis un peu perdu. Mais j'arrive pas à communiquer ni rien. Donc,
Bien sûr. On voit, Yves Psati, que très souvent dans un couple, il y a des éléments qui font des paramètres, hein, qui rentrent en jeu. La sexualité diminue jusqu'à un moment donné être totalement absente du couple. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à Frédéric, Yves ?
Alors, tout à l'heure, il parlait de... Pardon, j'ai mal interprété votre question, je pensais que c'était à moi, mais tout à l'heure il parlait de réveiller le désir chez la femme, tout ça, qu'il fallait provoquer tout ça, mais si la femme elle veut vraiment pas,
bien
elle n'est pas du tout là-dedans, comment provoquer alors qu'elle n'a pas envie? C'est ça quoi?
C'est une bonne question. En fait, Brigitte, en face de nous avons la mauvaise personne. La bonne personne serait été madame. Donc, madame qui doit venir demander, voilà, moi j'ai un problème, je voudrais avoir du désir sexuel, je n'en ai pas, dites-moi qu'est-ce que je dois faire. À elle, on peut donner des conseils. Mais ici, c'est monsieur. Ah, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Amenez madame, on va lui expliquer, ou bien nous, on va vous expliquer, allez expliquer à madame ce qu'elle doit faire, on va voir si ça va marcher. Mais allez dire à madame un peu. Dis ma chérie, est-ce que toi tu veux un peu fantasmer encore plus? Tu dois te masturber autant pour avoir des désirs sexuels? Allez, dites. Vous-même, on va voir si ça va marcher ou pas. Sûrement pas. Donc ici, pour que le système fonctionne, pour que les gens bougent, il y a une condition. La condition sine qua non, c'est qu'il faut souffrir. La souffrance, c'est quoi? La souffrance, pour elle, ça devrait être une bonne souffrance. Ça, c'est vraiment les bonnes souffrances. Quand les gens souffrent, ils bougent. La bonne souffrance, c'est de dire, moi, j'ai envie du sexe, j'ai pas de sexe. Pourtant, je vais, donnez-moi des outils, donnez-moi des choses à faire pour que j'améliore ma sexualité. Je suis curieuse et je suis motivée. Là, on appelle un patient idéal, le bon patient. Parce que tout ce que vous allez lui donner, il va le prendre. On appelle ça un acheteur, un patient acheteur. Par contre, si c'est un patient qui est là chez vous et qui est comme un touriste, il ne sait pas pourquoi il est là, il n'est pas motivé, vous pouvez lui raconter tout ce que vous voulez, ça ne va pas marcher.
Ouais.
Donc, avant tout, je pense qu'on peut lui donner plein de conseils, mais il faut voir si elle va être acheteuse ou pas. Donc, ici, vous avez une plainte, que dois-je faire? Que puis-je faire moi-même? Ben, la chose que vous pouvez faire, c'est d'aller consulter déjà un sexologue ensemble.
Elle ne veut pas.
Oui, bien sûr. Mais je pense, Frédéric, que vous appelez parce que vous souffrez de la situation. Est-ce qu'elle en souffre, elle? Parce que Yves parle de souffrance, mais oui, d'abord, est-ce qu'elle en souffre ou est-ce qu'au fond, ça lui va très bien? Parce que si ça lui va très bien, il faut qu'elle entende que vous souffrez et que comme vous souffrez, ça met le couple en danger. Enfin, il me semble que c'est la seule manière de la faire réagir, non, Yves Psati?
Oui, parce que elle peut nous dire, ah, je souffre. Souffrez de quoi, madame? De la souffrance de mon mec, je souffre. Ben, c'est pas une souffrance. Ça, c'est une pitié. Vous avez pitié de votre mec. Vous ne souffrez pas pour votre mec. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, quand des gens comme ça sont en consultation, donc l'un veut et l'autre ne veut pas beaucoup. Alors, je vais un peu aller titiller celui qui ne veut pas beaucoup. Et je vais lui demander, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la sexualité de l'autre, celui qui veut? Dites-moi. Donc, c'est votre droit de ne pas vouloir de la sexualité. Vous avez tout à fait le droit. Mais vous êtes en couple. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que le système fonctionne? Pour lui, pour sa sexualité. À quoi vous avez pensé? Est-ce qu'il a le droit de se masturber dans la maison? Est-ce qu'il a le droit d'aller voir ailleurs? qu'est-ce que vous allez mettre en place si vous vous dites, moi, je me retire de la sexualité, moi, je ne veux pas de la sexualité, et pour la sexualité de l'autre, qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est-à-dire que c'est pour faire bouger les gens. C'est pour que les gens puissent comprendre. Effectivement, je suis responsable. Donc, n'oubliez pas, ici, dans un système comme ça, quand on est dans un couple, ne pas avoir de relation sexuelle, c'est une infidélité. C'est une grande infidélité. Infidélité, ça veut dire un coup de canif au contrat, le contrat, celui qui a été écrit ou bien celui qui est tacite. Est-ce que quand aussi, je ne sais pas, vous êtes marié ou pas, si vous étiez marié par exemple, est-ce qu'au début, c'était marqué que moi, après les enfants, je ne veux pas de la sexualité? Est-ce que vous avez signé un truc comme ça? Vous n'avez pas signé un truc. C'est un coup de canif au contrat. Donc c'est ça l'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas d'aller baiser ailleurs, hein. Il y a plusieurs formes d'infidélité. Une des formes d'infidélité, c'est de refuser la sexualité. Alors, vous avez le droit de refuser, mais qu'est-ce que vous allez mettre en place pour l'autre membre du couple qui veut de la sexualité? C'est comme ça que je vais un peu la faire bouger, pour qu'elle se rende compte de ce qui se passe.
Merci, oui.
Voilà. Vous pouvez peut-être lui faire écouter en podcast si elle veut pas aller consulter. Faites-lui écouter ce qu'a dit Yves. Mais moi, c'est ce que j'aime chez vous, Yves, c'est que vous dépassez toute notion de moralité. Je crois qu'en effet, vous êtes Frédéric. D'abord, vous souffrez, vous êtes malheureux, et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'on doit entendre quand on est dans un couple et qu'il y a quelque chose qui nous rend malheureux, qu'on n'a pas nos besoins satisfaits au minimum. Eh bien, ça met le couple, ça veut dire qu'il faut renégocier le couple. Et c'est ce que vous proposez.
C'est ça. Oui.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Il faut une discussion vraiment franche là-dedans. Donc, il faut pas qu'elle s'enfuit de ce genre de discussion.
Oui, oui, oui.
Et puis vous mettez monsieur Frédéric devant elle, vous dites, OK. C'est ça. Donc, j'accepte. Qu'est-ce que tu mets en place pour ma sexualité?
Et comme vous dites, elle s'enfuit, elle cherche toujours un sujet pour fuir cette conversation-là. Et
oui, bien sûr.
Plusieurs fois, et c'est quand même compliqué de...
Elle n'aime pas la sexualité, c'est son droit. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer la sexualité. C'est un droit de ne pas aimer la sexualité. Mais qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour celui qui aime la sexualité?
De toute façon, Frédéric, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fuite, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas entendre. Alors, est-ce qu'elle ne veut pas entendre parce que ça la dérange, vu qu'elle n'a plus envie de faire l'amour, ou est-ce que c'est quelque chose chez elle qu'elle ne veut pas entendre? Et ça, malheureusement, on peut pas répondre à sa place.
Oui, je comprends.
Vous voyez, soit c'est parce que de toute façon elle n'a plus du tout envie de faire l'amour avec vous, ou plus du tout envie de faire l'amour, ça je ne sais pas. Soit c'est parce que ce qu'elle aurait à vous répondre, elle a peur de vous le dire. Peut-être qu'il y a des tas de rancœurs qui font qu'elle a décidé de ne plus faire l'amour avec vous par une sorte de vengeance. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que c'est très complexe. On peut pas donner une réponse. Enfin, je veux dire, un sexologue qui vous donnerait une réponse totalement définitive et dogmatique, ce serait un mauvais sexologue. Et je pense que quand Yves vous dit on n'a pas la bonne personne en ligne au début de notre conversation, je crois que c'est ça la vraie réponse. En revanche, vous, on vous a donné la marche à suivre pour sortir de cette non-communication sur un sujet essentiel.
Je comprends. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous, Frédéric. On fait une petite pause et nous retrouvons Emmanuel. Emmanuel, c'est une femme qui voudrait aussi retrouver peut-être sa sexualité. On se retrouve dans un instant.
Sud Radio Mazamet.
104.1.
Sud Radio.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey.
Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Comment aider les femmes à être dans la sexualité positive? C'est le sujet du jour en compagnie de Yves Pslaty, le créateur de la sexualité positive. Emmanuel, bonjour, merci de nous rejoindre. Oui, pardon.
Brigitte. Oui. Avant de prendre Emmanuel, est-ce que je peux compléter ce que je voulais dire dans le cas de Frédéric? Parce que c'est très, très important. Disons, au début, j'ai dit, c'est la mauvaise personne qui est là, donc c'est sa femme qui devait être là. Quand on est sexologue, on est aussi thérapeute de couple. Il faut être thérapeute de couple. Et quand on est thérapeute de couple, il faut être sexologue pour savoir comment est-ce que je vais travailler. Disons que, ici, on me téléphone, Michel et Micheline, c'est le couple. Michel me téléphone, ma femme n'a pas de désir sexuel, tout ça. Alors moi, je dois voir comment est-ce que je vais travailler avec ce couple-là. C'est pour ça que je dois aller voir seul. Je vais commencer par voir Micheline seule. Est-ce qu'elle n'a pas de désir sexuel? C'est quoi le désir sexuel? Disons, deux possibilités, je vais prendre. Micheline, la femme de Micheline, elle ne baisse pas avec son Michel. Par contre, elle a un amant qui s'appelle Joseph. Elle se tape 2 ou 3 fois par semaine le Joseph. À côté de ça, elle se masturbe quasiment tous les jours. Elle a 20 fantasmes par jour. Elle n'a aucun problème de désir sexuel. Mais Michel ne le sait pas. Et moi, je le sais. Je dois le savoir. Alors, dans ce cas-là, c'est pas une sexothérapie de Micheline qu'il faut faire, puisque tout fonctionne bien chez Micheline. Ce qu'il faut faire, c'est une thérapie de couple Michel-Micheline, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi Madame Micheline n'offre pas son corps à Monsieur Michel. Dans un autre cas de figure, Madame Micheline, pas de fantasme, pas de masturbation, pas de désir sexuel, pas de Joseph. Tout est plat. Là, je vais prendre la Micheline en question. En charge et travailler avec la Micheline à booster son désir sexuel et commencer toujours à travailler par la sexualité personnelle, c'est-à-dire le fantasme et la masturbation. Donc c'est comme ça qu'un sexologue voit les choses. Je ne sais pas au départ comment est-ce que je vais travailler. Est-ce que je vais faire une sexothérapie de Micheline ou bien c'est un problème de couple que je dois régler pour que Micheline soit encore attirée par Michel. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le savoir à l'avance.
Oui, enfin, ce que vous dites, c'est les bons sexothérapeutes qui fonctionnent comme ça. Ils sont pas tous comme ça, malheureusement. Mais vous, on sait que vous êtes excellent. Emmanuel, merci d'avoir patienté un petit peu, mais c'était important ce que Yves a ajouté. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour Yves, bonjour Brigitte, je suis très heureuse de participer à votre émission et encore un grand merci pour les émissions que vous faites voilà, quotidiennement et qui nous apportent énormément de choses.
Merci. Vous êtes un peu Micheline, vous, Emmanuel, hein, il me semble.
Oui, on va dire ça comme ça. J'ai été, en tout cas, j'ai été. Et puis, en fait, pour faire simple, j'ai eu une période de ma vie en couple, donc toujours avec mon conjoint. Dans ma première partie de vie, voilà, le début du couple au niveau sexuel, tout fonctionnait bien. Et puis, l'arrivée des enfants a été là, et j'ai été plus maman que mère, épouse, etc. Donc, il y a eu un moment vraiment où je faisais ça, voilà, parce qu'il fallait, quand même pas laisser mon conjoint, tout seul. Hein. Donc, il y avait des moments où je le faisais avec plaisir, mais il y avait aussi des moments où, je disais non parce que ça ne me disait rien. Et je voyais bien que j'avais pas un rythme, on va dire, normal. Et puis, les années ont passé, les enfants ont grandi, et à un moment donné, j'ai vécu, l'infidélité de mon conjoint. Et à partir de ce moment-là, les choses ont complètement changé pour moi, puisque en fait, à partir de ce moment-là, bien évidemment, l'infidélité m'avait amené à prendre de la distance morale et distance physique. Il a fallu que je me débrouille toute seule, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai appris à me découvrir. Donc vraiment très très tardivement, puisque j'avais presque 60 ans.
Oui. Et vous êtes découverte comment ? Avec la masturbation ou en prenant des amants ?
Oui. Non, uniquement avec de la masturbation, voilà.
Ouais.
Et finalement, au travers de cet incident de parcours de couple, il s'est avéré que le fait d'apprendre à me découvrir m'a donné vraiment une vraie libido. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire l'amour avec mon mari, plusieurs fois par jour même, ou plusieurs fois par semaine. Voilà, alors je suis son rythme parce que bien évidemment avec l'âge on n'a pas la même, tout du moins chez les hommes aussi, la même intensité parce que le mécanisme il marche aussi au ralenti. Mais je suis vraiment quelqu'un, donc je vais me contenter toute seule, hein, et je vais pas forcément lui demander. Je vais le faire individuellement, dans un moment où je suis seule. Mais je ne vais pas passer à côté de ce moment où j'ai envie de me faire plaisir.
Donc finalement, aujourd'hui, ce serait presque vous qui êtes plus avec une libido plus débordante que lui, si je comprends bien.
Oui,
Parce que lui, il n'a pas les érections trois fois par jour, évidemment, à son âge. Ce qui est intéressant, on sait, hein, Yves Pslaty, qu'une relation d'infidélité peut parfois faire renaître le désir ou en tout cas l'envie sexuelle, hein, dans un couple.
Oui, mais donc, il ne baisait pas beaucoup et une fois que c'est découvert, il baise beaucoup. Mais ils vont baiser beaucoup, combien de temps ? C'est ça qui est important. Donc, ils vont le faire pendant 2 mois, 3 mois. Et puis, ils vont diminuer, et ça va être encore zéro comme avant. Donc ici, elle a très bien compris que il faut remplacer par quelque chose. Donc, elle s'est masturbée, donc elle a augmenté sa libido intrinsèque à elle, personnelle, pour la mettre au profit de la sexualité relationnelle. Donc, elle a tout compris, en fait. Maintenant, vous avez tout compris et vous avez très bien fait les choses au moment où il faut faire. Mais ici, le premier moteur de la sexualité, je pense qu'à chaque émission avec Brigitte, je le dis ici, le premier moteur de la sexualité, c'est la quantité, c'est la fréquence. Moins vous faites, moins vous voulez. Plus vous faites, plus vous voulez. C'est ça. Parce que la spontanéité, elle parle. Donc, spontanéité, ça veut dire quoi ? Le désir spontané, aujourd'hui, maintenant, j'ai envie, je saute sur toi. Voilà, j'ai du désir spontané. Je ne vais pas attendre que toi, tu viennes. Le problème, c'est que quand la fréquence de rapport sexuel diminue, cette spontanéité part. Pourquoi elle part ? Parce qu'on commence à réfléchir. Maintenant, je vais aller vers lui ou vers elle. Qu'est-ce que je dois faire ? Je peux toucher la main ? Je peux embrasser ? Je dois faire quoi ? Et si je suis refusé ? Et si je suis refusé et je suis frustré parce que je suis refusé ? Donc, ça va empêcher encore plus les gens à aller vers l'autre. On attend. Un jour, deux jours, cinq jours, dix jours, et puis c'est la catastrophe. On a oublié tous les codes de spontanéité pour pouvoir inviter l'autre à avoir une relation sexuelle. On attend que tout vienne de l'autre. L'autre aussi, il est là, il ne bouge pas, il ne sait pas comment faire. Eh bien, il se regarde en chien de faïence, on ne sait pas comment réagir, et ça ne marche pas, et le système est complètement bloqué. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu trop peu de rapports sexuels.
Alors Emmanuel, moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup et je suis sûre que ça intéresse des femmes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre qu'il fallait que vous réveilliez votre libido, que vous retrouviez le désir, l'envie d'avoir envie qu'est-ce qui s'est passé
Eh bien, en fait, c'est un peu comme les enfants, quand on leur interdit quelque chose, ils ont envie d'avoir. Moi, je ne pouvais plus avoir de relations avec mon mari parce que il était avec d'une certaine façon avec une autre femme, parce qu'il n'a jamais quitté le foyer, hein. Mais voilà, il vivait cette aventure avec une autre femme et ça m'était insupportable de voir qu'il y avait une autre femme qui pouvait lui donner du plaisir et pas moi. Donc ça a réveillé chez moi un manque, hein, mais un manque très 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 fort et du coup des besoins. Et des besoins qu'il fallait que je puisse combler. Donc la première étape a été de me découvrir moi. Et puis la deuxième, en fait, le fait de me découvrir moi, j'ai pu aussi comprendre quel était son positionnement quand lui, il était en manque et que moi, je ne répondais pas à ses attentes. Et en fait, j'étais dans la même situation. Donc, qu'est-ce qu'il faisait lui quand c'était comme ça, et qu'est-ce que moi je pouvais faire aujourd'hui pour que pour lui ça devienne de nouveau quelque chose qu'il ait envie.
C'est intéressant parce que du coup vous avez compris le manque qu'il a eu et donc vous avez plus facilement lui pardonner son infidélité, j'imagine.
Non, je n'ai pas pardonné par contre.
Non,
c'est ah bon. Ambigu, non. Non, mais j'aime profondément mon mari et je me suis dit, 40 et quelques années de couple, on a le droit d'avoir un parcours échappatoire à un moment donné de sa vie, puis parce qu'il y a tout un tas de choses dans la vie qui se vivent ou qui ne se vivent pas et qui font qu'à un moment donné on peut avoir une petite lassitude ou une incompréhension et puis moi je pars de ce principe là et je me dis je vais faire abstraction de ce qui s'est passé. Je ne dis pas que je pardonne parce que même aujourd'hui ça me fait toujours mal, donc c'est quelque chose qui est en moi et que je n'ai pas encore pu complètement évacuer, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer, ça ne m'a pas empêché de reconstruire mon couple d'une façon différente et d'avoir en fait l'amour très très prononcé de mon conjoint aujourd'hui qu'il manifeste alors qu'il ne le faisait pas avant, par exemple.
En tout cas, votre couple, et c'est ça qui est formidable, va beaucoup mieux. Je pense que si vous avez envie de dépasser mieux cette infidélité qui visiblement est encore un peu difficile, il faut que vous avanciez sur la notion de rivalité, parce que finalement, on voit bien que chez vous, c'est la rivalité, hein, c'est-à-dire cette femme qui vous prenait votre mari, qui a provoqué cette souffrance, ce manque, et qui a finalement qui vous a permis de retrouver le désir en vous. Et c'est peut-être ça aussi qui montre que c'est difficile pour vous de pardonner. Mais enfin, ça c'est...
Je n'ai pas visualisé ça comme ça, mais peut-être bien. Oui, vous avez raison.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on sait, hein, on sait que quand on travaille sur le désir mimétique, on sait qu'on peut avoir envie de faire comme l'autre, ou on le prend comme rival, et à ce moment-là, c'est souvent très, 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 très particulier. Oui, Yves, allez-y, je vous en prie.
Oui, mais ici, sur le pardon, je vais peut-être ajouter quelque chose sur le pardon. Pardon, ça ne veut pas dire oublier, hein, c'est deux choses tout à fait différentes. Hein.
Oui.
Pardon, le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, pas à votre mari, c'est à vous-même. Parce que le jour où vous pardonnez, il doit vous demander pardon. Hein. On ne pardonne pas comme ça, hein, donc c'est tout un processus, le pardon. Un processus, il doit vous demander pardon pour le mal qu'il vous avait fait. Et vous, vous pardonnez. Quand vous pardonnez, ce n'est pas un cadeau à lui que vous faites. C'est un cadeau à vous-même pour pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Pour ne pas... Donc, cette femme-là, donc la maîtresse-là, elle est comme une tumeur dans votre tête. Il faut que cette tumeur sorte à un moment donné pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Quand, avec le temps, cette tumeur diminue, que vous êtes capable de l'enlever, à ce moment-là, lui, il doit vous demander pardon du mal que vous avez fait. Vous pardonnez et vous dormez sur vos deux oreilles vous vous faites le plus grand cadeau dans votre vie, c'est le pardon de ça. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier. Mais quand une fois que vous avez pardonné et que vous avez confiance en lui, et puis les pics vont s'arrêter. C'est-à-dire que vous n'allez plus revenir sur le sujet. Tu sais qu'à telle époque, tu avais une maîtresse, il va payer toute sa vie sinon. Toute sa vie, oui. Vous allez lui envoyer des pics. Et ce n'est pas un bon couple, ça. Donc moi, je travaille beaucoup sur l'infidélité et sur le pardon. Donc, le pardon est quelque chose de très important pour que ça vienne et que les pics cessent à un moment donné. Et comme ça, lui aussi, il est à l'aise. C'est-à-dire, j'ai payé. Il a payé comment? Il a fait une faute. Il a payé comment? Par votre mauvaise humeur, par vos pics. Mais à un moment donné, les pics vont s'arrêter. Parce que souvent, quand je vois, celui qui va partir in fine, celui qui va demander après quelques années le divorce, c'est celui qui reçoit les pics en disant « ça suffit, je n'en peux plus, j'ai reçu tous ces pics-là, j'ai payé ma faute et maintenant arrête. » Et tu n'arrêtes pas et il va partir. C'est ça qui se passe. Donc en pratico-pratique, plusieurs années d'expérience là-dedans.
Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est, par contre, comme je sais que je n'ai pas encore pardonné, je suis vigilante parce que quand des fois j'ai des moments où effectivement il y a des choses ou une action qui va être menée, quelque chose qui va être dit, où j'aurais envie de lui dire, comme l'autre ou bien évidemment si c'était l'autre ou voilà des choses comme ça, je le garde à l'intérieur. Donc oui, je sais bravo. Que je suis toujours en thérapie et j'essaye de contrarier ça.
Bon, vous avez raison de le garder, de ne pas lui dire, mais en même temps, si vous gardez quelque chose à l'intérieur, c'est pas bon pour vous non plus. Donc, mais travaillez, je vous dis, sur cette question de rivalité, vous verrez, ça vous donnera une piste positive. Merci beaucoup, Emmanuel. Votre témoignage est fort et beau et je vous en remercie beaucoup parce que ça peut aider certaines qui nous écoutent et qui sont peut-être en train de souffrir parce que leur compagnon a été voir ailleurs.
La fidélité n'est pas une fin en soi.
On est bien d'accord, la preuve, c'est que votre couple va mieux. Merci beaucoup. On fait une petite pause, Yves Pslati, on retrouve Pauline dans un instant.
Écoutez Sud Radio Nantes en DAB+.
Sud Radio.
Tu seras
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Yves Pslati est avec nous, sexothérapeute, et il nous dit que ben, c'est pour, possible pour tout le monde, la sexualité positive, faut-il encore en avoir envie, et ce n'est pas une injonction, on n'est pas obligé évidemment d'être dans la sexualité positive, ça c'est quand même important aussi de le signaler. Pauline, merci d'être avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves.
Bon,
j'ai bien écouté et puis je vous ai appelé parce que je me posais la question quand même. Je vous explique. Moi, je n'ai pas une grande sexualité. Ça se passe bien quand ça se passe. Mais le désir est vraiment, je peux pas savoir quand il va venir et il vient pas forcément. Je peux ne pas en avoir pendant des semaines. Donc, moi, j'en souffre pas, mais mon compagnon est beaucoup plus régulier dans sa demande et dans son désir forcément. Et du coup, bon. Donc, comme j'ai pas de problème de jouissance, je pense pas avoir d'inhibition. Je me dis bon, je me demandais ce qui pouvait bloquer.
Mais est-ce que bon, j'ai bien compris que vous avez peu de désir, mais est-ce que vous faites l'amour parfois même si vous en avez pas envie?
Oui, je le fais pour lui faire plaisir. Sinon, ce serait trop long.
Alors, attendez, vous le faites pour lui faire plaisir, mais est-ce que vous avez de la jouissance malgré tout ce
jour? Oui, c'est possible. Oui, c'est complètement
d'accord.
Possible. Je crois même dire qu'il y a une fois où...
D'accord. Oui. Et ça vous fait pas plaisir d'avoir de la jouissance?
Ah si, c'est bien sur le moment, mais en fait, c'est l'idée de le faire qui ne me vient pas. Sauf
d'accord.
Parfois s'il y a quelque chose qui...
Alors Yves, j'aime bien le témoignage de Pauline parce qu'il c'est formidable. Elle fait l'amour pour lui faire plaisir. À l'arrivée, elle a un orgasme, mais c'est pour lui faire plaisir qu'elle qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter?
Enfin, on a la bonne patiente devant nous. C'est celle qui a un problème qui est devant nous. Ok. Donc on va lui donner des outils hein, pour ça. Pour
bah, c'est un problème pour lui, surtout que moi, j'ai pas de... Mais oui. Oui, enfin, je veux dire, moi, j'en souffre pas, ça me suffit, mais il faut quand même, je suis obligée de prendre en compte le désir de mon partenaire. Voilà.
Vous avez quel âge, là?
45.
45. Et vous allez vivre encore combien d'années, normalement?
Tout n'est pas perdu.
Hein? Oui, pardon,
vous êtes jeune,
pas
vous êtes jeune. Vous
si
êtes jeune. Ouais. Donc
bah,
c'est
si,
dommage
si.
De passer à côté. Alors quand vous dites jouissance, qu'est-ce que vous entendez par jouissance? Parce qu'il y a deux choses, hein. Il y a le plaisir et l'orgasme. Il y a le plaisir et l'orgasme. C'est pas la même chose, hein.
Oui.
Donc le plaisir, c'est quand ça augmente, hein, quand les contractions, tout ça augmente dans le corps. Et l'orgasme, c'est l'acmé, où là, ça augmente terriblement. Et puis ça chute, ouf, on respire bien, on a passé du bon moment.
Oui.
Est-ce que vous avez des orgasmes?
Oui. Okay. Oui. Et au niveau technique, on va dire, je sais comment. Je sais comment faire.
Donc maintenant, je vais parler un peu anatomie, hein. Mais pas anatomie du bas-ventre, hein. Anatomie du cerveau. Donc dans le cerveau, il y a un système de récompense. Un système de récompense qui est sous la dopamine. Donc quand on a fait quelque chose et que c'était bon, on a envie de recommencer si mon système de récompense fonctionne bien. Le bon dans la sexualité, c'est orgasme. Donc, il faut avoir un orgasme. Parce que les gens qui ont un plaisir, ils n'arrivent pas à faire fonctionner leur système de récompense. C'est-à-dire de recommencer cette expérience-là. Donc, il faut un orgasme. Heureusement, vous avez un orgasme. Maintenant, le système ne fonctionne pas bien. Le fixer ne fonctionne pas bien, puisqu'aujourd'hui, vous avez eu un très bon orgasme. Et demain, vous n'allez pas vers votre mari, votre homme, pour recommencer ces superbes moments que vous avez vécu ensemble. Vous voulez un outil?
Oui.
Vous voulez que je vous donne un outil? Vous êtes sûr?
Oui, oui, mais j'avais quelque chose à dire.
Pour booster, pour booster le système de récompense.
Ben oui, je crois qu'elle elle a appris pour ça.
Oui, là, je vais vous le donner. Donc, vous avez eu un orgasme. L'orgasme est terminé. Dans le quart d'heure, donc c'est important, dans le quart d'heure, essayez de vivre dans votre tête l'orgasme que vous avez eu dans votre corps. C'est-à-dire réfléchir pendant une minute c'est 60 secondes, dans le quart d'heure, de revivre cet orgasme. Ah, voilà, je respirais comme ça, mon cœur battait comme ça, probablement mon visage était rouge. Dans l'intérieur de mon corps, au niveau vaginal, au niveau clitoridien, je ressentais ceci, au niveau de l'utérus. Essayez de vivre pendant 60 secondes dans votre tête pour qu'il y ait imprégnation. Dans votre tête pour qu'il y ait imprégnation de ce que vous avez vécu pour alerter le système dopaminergique, la dopamine. Une fois. Ça s'appelle première piqûre de rappel. Il y en a deux autres encore. Deuxième piqûre de rappel, le soir avant de vous endormir dans le lit. Même exercice, l'orgasme que vous avez eu peut-être 10 minutes avant ou bien 20 minutes avant ou bien 2 heures avant, de le revivre pendant 60 secondes. Imprégnation. Et le lendemain matin, avant de vous lever du lit, avant de mettre un pied en dehors du lit, restez encore 60 secondes dans votre lit et essayez de faire cet exercice-là, de revivre pour l'imprégnation. Imprimez ça dans votre tête et le système dopaminergique va travailler. Je pense que le soir, quand monsieur va revenir, vous allez lui sauter dessus.
C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est que là, du coup, c'est vous qui allez lui sauter dessus sans arrêt. Non, mais c'est important ce que vous dites, Yves, parce qu'on voit bien que là, Pauline, il y a quelque chose qui était... Enfin, si vous avez un orgasme quand vous faites l'amour et que vous faites l'amour pour lui faire plaisir, ça veut dire qu'il y a derrière... là, je vais faire un peu la psy, mais on s'en fout. Ce qu'il faut... le conseil que vous donne Yves va fonctionner si vous le faites. Il y a certainement une culture qui n'a pas été positive vis-à-vis de la sexualité. Enfin, il y a certainement des choses comme ça qui sont un petit peu une sorte de chape de plomb, si je puis dire, sur ce circuit de récompense dont parle Yves.
J'ai deux minutes pour vous dire quelque chose.
Bien sûr, Pauline.
En fait, quand vous parlez de sexe, en fait, pour moi, le désir, il passe par la vue, par la stimulation, par le mental, par... voilà. Et j'ai l'impression que vous me parlez d'un désir qui est uniquement inscrit dans le corps, en fait. Je ne sais pas comment dire. Moi, j'ai besoin de... Je ne sais pas, j'ai besoin qu'on me donne envie, en fait. Voilà, si vous préférez.
Oui, bien sûr. Mais je crois que là, vous touchez un point essentiel et qui va certainement intéresser énormément de femmes. Et je pense qu'on va vous garder après les infos parce qu'on va pas avoir assez de la minute qui nous reste avant de laisser la place aux infos. Ce dont on parle quand on parle du circuit de récompense, c'est quand même de l'ordre des sensations et des ressentis. Et donc c'est donc du corps. Ce dont vous parlez, me semble-t-il, c'est vous avez envie qui vous fasse la cour pour que vous ayez pour que vous acceptiez de vous offrir. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Yves, je vous laisse en deux mots peut-être effleurer le sujet, si je puis dire, et puis après on laisse la place aux infos.
Il y a un deuxième outil. Ici, c'est les gens pensent que pour avoir une sexualité, il faut que ce soit spontané. Quand je leur dis le spontané, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas parce que vous êtes pendant des semaines, vous pouvez attendre, rien ne va se passer. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne programme pas ?
Alors, excusez-moi Yves, je vous avais dit deux mots, là, vous êtes en train de tout expliquer, vous le ferez juste après les infos.
Juste après, ok, super.
Et on vous retrouve tout de suite, évidemment. La petite devinette également, par qui le concept de beauté intérieure a-t-il été inventé ? La réponse, c'est évidemment également après les infos. Restez avec nous, Pauline, on revient sur tout ça.
Sud Radio Figeac.
103.8.
Sud Radio.
Notre terre flambe quand tout semble. que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment, tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant, tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito, mi cielo, mi vida, mi amor, mi pichoncito. Je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment, tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant, tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito, mi cielo, mi vida, mi amor, pichoncito, tu sonrisa, mi gasolina, tu piel, mi calma. Car tu es le sel, la cannelle, le piment, tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu tienes el poder de escoger tu destino, el poder de escribir tu destino, será poderoso que el león, sea sabio y obediente, como a menudo te piden. Sé justo, tenaz y sincero, sé solo tú, sé solo tú.
Ne bougez pas, dans un instant, retour de Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir. Ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.